de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. L'Indonésie et l'Union européenne ont convenu d'accélérer les négociations IEU-CEPA. HTMS Sukhothai a coulé 31 membres d'équipage de cuirassés portés disparus. Chine entame un nouveau cycle de pratiques constitutionnelles. Corée du Nord a critiqué la nouvelle stratégie du Japon dans le domaine de la sécurité. ONU fait état du plus grand nombre de morts dans le conflit palestino-israélien. Ministre des Transports invite les Émirats Arabes Unis et le Qatar à accroître leurs investissements en Indonésie. Et ministre des Finances a déclaré que les recettes fiscales avaient augmenté de 41,93%. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle incomplète. L'Indonésie et l'Union européenne ont convenu d'accélérer les négociations Indonésie-Union européenne, accord de partenariat économique global, IEU-CEPA, qui a été marqué par l'achèvement réussi de l'accord de fonds sur les services financiers dans le cadre du commerce des services. En outre, tous deux ont progressé dans l'examen de diverses questions, notamment dans le domaine des règles d'origine et des obstacles techniques au commerce lors du 12e cycle de l'IEU-CEPA. Le directeur des négociations bilatérales au ministère du Commerce, Johnny Marta, dans sa déclaration mardi 20 décembre à Jakarta, a déclaré que le 12e cycle de négociations était le premier cycle complet après la dernière réunion de novembre 2021. Cependant, selon lui, les délégations indonésiennes et européennes se sont engagées à accélérer les négociations conformément aux instructions des présidents des deux pays. Au moins 31 équipages de navires de guerre ont disparu après le naufrage d'une corvette HTMS Sukhothai de la marine royale thaïlandaise dimanche soir, 18 décembre, au large des côtes de la province de Prachuap Kirikan, au sud de Bangkok. Cité d'Antara, une opération à grande échelle impliquant des navires de guerre et des hélicoptères a été menée pour rechercher l'équipage coulé. Mais selon la marine thaïlandaise, des vents violents ont perturbé l'opération de sauvetage. La corvette a subi une panne de courant et de l'eau est entrée dans le navire avant de couler. La marine a déclaré que l'eau avait trempé le système électrique, provoquant une panne d'électricité et arrête les moteurs principaux. Les 75 premiers membres d'équipage ont été secourus. 11 d'entre eux sont actuellement soignés, tandis que la recherche des 31 autres membres d'équipage est toujours en cours. Le président chinois Xi Jinping a mis l'accent sur l'écriture d'un nouveau chapitre dans la pratique constitutionnelle chinoise cette année pour marquer le 40e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Constitution. Cité par Xinhua dans un article signé publié lundi 19 décembre, le président Xi Jinping a déclaré que des efforts sont nécessaires pour sensibiliser à la Constitution, perpétuer l'esprit de la Constitution, promouvoir la mise en œuvre de la Constitution, en faire davantage usage du rôle important de la Constitution dans la gouvernance de l'État. En faisant ces efforts, selon lui, des garanties solides peuvent être données pour faire de la Chine un pays socialiste moderne à tous les égards et faire avancer le grand renouveau de la nation chinoise sur tous les fronts. L'agence de presse KCNA a rapporté que la Corée du Nord a critiqué mardi 20 décembre la nouvelle stratégie du Japon dans le secteur de la sécurité et a averti que la nouvelle stratégie pourrait menacer la situation dans la région. La déclaration a été faite par un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères quelques jours après que le Japon a dévoilé son plan d'expansion militaire le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon le porte-parole, le Japon porte une grave crise de sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie de l'Est en adoptant une nouvelle stratégie de sécurité qui démontrait efficacement sa capacité à frapper en premier contre les autres pays. Il a qualifié cette décision de violation de la Charte des Nations Unies et de grave menace pour la paix mondiale. Selon lui, la Corée du Nord a le droit de prendre des mesures militaires décisives pour protéger les droits fondamentaux de ses citoyens. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, Thor Wennesland, devant le Conseil de sécurité de l'ONU lundi 19 décembre, a révélé que plus de 150 Palestiniens et 20 autres Israéliens sont morts dans le conflit palestino-israélien jusqu'à présent cette année. Il a déclaré que le nombre de morts était le plus élevé enregistré depuis des années. Il a également demandé que la violence cesse et que tous les autres soient traduits en justice. Il s'est également dit préoccupé par l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qui, selon l'ONU, est une violation flagrante des résolutions de l'ONU et du droit international. Cité par Antara, Thor Wennesland a déclaré que le nombre de maisons construites en Cisjordanie avait plus que triplé par rapport à l'année précédente, à savoir de 900 unités en 2021 à 3100 unités en 2022. Il a exhorté Israël à mettre fin à toutes les activités de colonisation et à la démolition des bâtiments appartenant aux Palestiniens. Le Wennesland a également appelé les dirigeants régionaux et la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour changer la dynamique négative sur le terrain et pousser les parties vers une solution à deux États. Le ministre des Transports Boudikaria Soumadi a invité les Émirats Arabes Unis et le Qatar à élargir leur coopération et à accroître leurs investissements en Indonésie, en particulier dans le secteur des transports maritimes et aériens. Dans une déclaration écrite reçue mardi 20 décembre à Jakarta, il a déclaré avoir rencontré le PDG de Dubai Port DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, pour discuter de l'augmentation de la connectivité, de la compétitivité logistique, de l'ouverture de nombreux emplois, ainsi que de développement de nouveaux points économiques et améliorer le bien-être de la communauté. Pendant ce temps, à Doha, au Qatar, Boudikaria a rencontré le PDG de Qatar Airways, Akbar Al-Bakr, et le PDG de la Qatar Investment Authority, Mansour Ibrahim Al-Mahmoud. À Qatar Airways, il a proposé un certain nombre de collaborations dans le domaine de l'aviation, notamment en proposant d'augmenter la fréquence des vols de Qatar Airways vers l'Indonésie et d'ajouter également des destinations de vol vers l'Indonésie. De plus, avec le Qatar Investment Authority, Boudikaria encourage une coopération accrue dans le secteur des transports. Un certain nombre de projets d'infrastructures de transport proposés comprennent le développement d'infrastructures de transport qui soutiennent le secteur du tourisme, en particulier dans les destinations super priorité. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré que les recettes fiscales au 14 décembre 2020 avaient augmenté de 41,93% par rapport à la même période de l'année précédente en glissement annuel pour atteindre 1634,36 billions de roupies. Lors d'une conférence de presse virtuelle mardi 20 décembre à Jakarta, Sri Mulyani a déclaré que la très forte augmentation était due à une bonne reprise économique antérieure, à la hausse de prix des matières premières et à la mise en œuvre de la réforme fiscale dans la loi d'harmonisation de la réglementation fiscale. Avec cette réalisation, selon elle, les recettes fiscales au 14 décembre 2020 ont atteint 110,06% de l'objectif de 1485 billions de roupies. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'accueil diplomatique intitulée « Ambassadeur indonésien, chancelier de l'UNY promeut l'enseignement supérieur indonésien au Kenya ». Vous êtes avec Maudry. Sergio Ritar, l'ambassadeur indonésien au Kenya, Muhammad Heri Saripudin, est le chancelier de l'Université d'État de Yogyakarta, UNY, sous Marianto, ont intensifié la promotion de l'enseignement supérieur indonésien au Kenya et présenté de manière intensive les campus indonésiens aux citoyens du Kenya et d'autres pays accrédités. Selon l'ambassadeur Heri, l'ambassade d'Indonésie à Nairobi a joué un rôle important dans la facilitation et la liaison des visites pour la promotion de l'enseignement supérieur en Indonésie en réunissant des parties liées dans diverses universités du Kenya. L'université Uma est devenue l'un des campus visités par la délégation de UNY. Ambassadeur d'Indonésie et exécuteur de la fonction d'information sociale et culturelle de l'ambassade d'Indonésie à Nairobi, Sabrina Jayaputri. Leur visite visait à promouvoir des programmes éducatifs, y compris des bourses pour divers programmes de strates offerts par l'UNY à de futurs étudiants d'Afrique de l'Est. La visite visait également à élargir le réseau de coopération avec des partenaires universitaires en Afrique de l'Est, en particulier au Kenya, en outre à des visites à l'Université Uma. Une discussion en ligne a également eu lieu entre l'UNY et le doyen de la Chandria School of Business United States International University en Afrique, Timothy Okesh, et plusieurs conférenciers de l'Université Kenyatta lors d'une réunion de jeunes Kenyans. La visite de la délégation de l'UNY a abouti à plusieurs ébauche de coopération dans le cadre de la Sister University Corporation, dont l'une a été réalisée avec l'Université d'Uma. L'ambassade d'Indonésie à Nairobi a déclaré dans sa déclaration que la jeune génération du Kenya qui a fréquenté la rencontre avec le chancelier de l'UNY a montré leur intérêt pour l'apprentissage des arts et de la culture indonésienne qui fait partie du programme proposé. L'ambassadeur Heri a souligné la coopération éducative, y compris la fourniture de divers programmes de bourse, est devenue un atout important pour éduquer et donner naissance à la prochaine génération des jeunes qui ont le potentiel de devenir des leaders à l'avenir. De plus, l'éducation est le plus pilier important dans la création de semences de qualité supérieure pour les futurs dirigeants nationaux qui continueront à renforcer la coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Kenya de manière plus productive. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'accueil diplomatique.
Chers amis lointains, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 décembre 1968, le lancement d'Apollo 8. La mission spatiale Apollo 8, lancée le 21 décembre 1968, était la première mission spatiale habitée qui a quitté l'orbite terrestre, atteignant l'orbite lunaire, puis retour à la Terre. Les astronautes Frank Borman, James Lovell et William Anders sont les premiers hommes à traverser l'orbite de la Terre. Apollo 8 a fallu 3 jours pour arriver à l'orbite lunaire, font 10 fois le tour de la Lune pendant plus de 21 heures. Apollo 8 a atterri dans l'océan Pacifique le 27 décembre 1968. Passons maintenant à l'événement du 21 décembre 1988, l'incident de Lockerbie. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 de la compagnie américaine Pan Am explose en l'air et s'écrase dans la petite ville de Lockerbie en Écosse. L'avion a décollé de l'aéroport international d'Heathrow à Londres à destination de l'aéroport international John F. Kennedy à New York. À bord, les 243 personnes et 16 membres d'équipage sont morts. 11 résidents de Lockerbie sont morts après avoir été heurtés par des pièces d'avion. Dans l'épave de l'avion, les restes d'explosifs Semtex ont été retrouvés. Il a été prouvé que deux citoyens libyens étaient impliqués dans l'explosion. En 2003, le gouvernement libyen a accepté de verser des indemnités aux familles des victimes. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 décembre 1923. Le Népal est passé d'un protectorat britannique à un pays indépendant. Le Népal et la Grande-Bretagne ont signé le 21 décembre 1923 un accord appelé Accord final. L'accord était la première reconnaissance formelle par le Royaume-Uni que le Népal, en tant que nation indépendante, avait le droit de poursuivre sa politique étrangère à tout prix. L'accord a été enregistré en 1925 à la Ligue des Nations. C'est Jury Talk, c'était l'histoire de Jury pour ce soir. Dalam kehidupan kini yang
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, renforcer les MPME pour maintenir la croissance économique nationale. L'Indonésie a encore une grande opportunité de maintenir la croissance économique nationale. Donc, l'une est de continuer à renforcer les micro, petites et moyennes entreprises grâce au programme de crédit aux entreprises populaires, KUR. Cela a été transmis par le président Joko Widodo lors de la remise du crédit aux entreprises populaires, CUR, du cluster et de la distribution des fonds par le biais des institutions de gestion des fonds renouvelables, des coopératives et des micro, petites et moyennes entreprises, LPDB KUMKM, qui s'est tenu au Palais d'État de Jakarta lundi le 19 décembre. La remise est effectuée simplement à un certain nombre de représentants des bénéficiaires qui étaient présents au Palais d'État. Il s'agissait de représentants de plusieurs banques de distribution et des coopératives de diverses régions d'Indonésie. Dans son allocution, le président s'est dit satisfait de la réponse positive des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, dans l'utilisation du programme CUR. Selon le président, le crédit aux entreprises populaires, CUR, est utilisé par un total de 39,4 millions de PME. Le président a déclaré que le modèle de crédit aux entreprises des personnes du cluster pourrait offrir des avantages aux acteurs des MPME avec une clarté allant de la production aux consommateurs. D'autre part, le modèle court de cluster permet également aux banques ou autres institutions non bancaires de gérer plus facilement les prêts par cluster. Il a donné des exemples de cluster de café et de cluster d'horticulture. À cette occasion, le président a encouragé d'autres institutions financières à contribuer aux efforts de développement des MPME en Indonésie, ce qui a également un impact sur la croissance économique nationale pour qu'elle se développe bien et équitablement. Le président a expliqué qu'avec ce programme, les petites entreprises peuvent devenir des moyennes entreprises, les moyennes entreprises peuvent devenir des grandes entreprises, de sorte qu'il encouragera l'économie indonésienne à se développer correctement et équitablement. À l'avenir, le président estime qu'un programme de financement de modèle de cluster comme celui-ci aura un bon impact et peut connecter des groupes d'entreprises avec un modèle consolidé avec des acheteurs garants ou des acheteurs. Le président a également encouragé la mise en œuvre du modèle de cluster court dans tous les secteurs d'activité à partir des plantations, de la pêche, de l'élevage à l'industrie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Jangan pernah kepadamu. Apabila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan kita cinta.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, se détendre au bord des rizières accompagné d'un verre de café chaud l'après-midi est une chose dont beaucoup de gens pourraient rêver. Mais si vous allez à Yogyakarta, vous pouvez le faire au café Kotok, car le magasin est vraiment situé en bordure des rizières. Cette méthode d'infusion donne au café Kotok un arôme fort et une sensation de goût aigre doux à chaque gorgée. Warung Kopi Klotok Jogja est l'une des destinations touristiques culinaires qui réjouit de visiteurs. Il est courant que vous soyez prêt à faire la queue si vous venez le week-end, car ce stand simple dans la région de Kaliurang est populaire auprès de presque tous les groupes pour un lieu de détente. Chers auditeurs, lorsque vous venez à Warung Kopi Klotok Jogja, vous serez immédiatement accueillis par un bâtiment traditionnel Javani. Comme son nom l'indique, ce restaurant porte le concept d'un simple échoppe avec un bâtiment joglo traditionnel et des meubles anciens disposés à l'intérieur. Outre le café Klotok qui est la boisson signature, cet état est également célèbre pour les spécialités du village telles que les légumes lodés aux aubergines, le tempeh lodeh au piment vert et bien d'autres. On peut déguster ce plat en intérieur à l'architecture javanaise ou en extérieur avec vous sur les rizières et le mont Merapi. Siroter un café chaud tout en mangeant des aliments frits aura un goût encore plus délicieux, car il est soutenu par une belle atmosphère avec des étendues de rizières autour du bâtiment. Ainsi, Warung Kopi Klotok Jogja n'est presque jamais vide de visiteurs. Votre loot après une longue file d'attente sera compensé par des plats délicieux et de magnifiques paysages naturels. situé à Jalan Kaliurang numéro kilomètre 16, Sawah Area, Pakem Binangun, le district Pakem, la résidence de Sleman, la région spéciale de Yogyakarta, le café Clotok est ouvert de 7h à 21h. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de plan ou vous passerez la nouvelle année avec votre famille, peut-être que Yogyakarta est le bon choix pour vous. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
C'était la belle chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Ketika penyu bertelur. Ketika penyu bertelur. Quand les tortues pondent des œufs. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé « Ketika penyu bertelur ». Ketika penyu bertelur, quand les tortues pondent des œufs. Cette conversation a eu lieu entre Dev Singh, un touriste indien, et un guide touristique de Likupang. Dev et le guide sont sur le bateau pour l'île de Lihaga. Bonne écoute.
Kapan kita bisa melihat penyu hijau di Pulau Lihaga?
Kita bisa melihat penyu hijau di pantai ketika mereka bertelur.
Sœur Jamie, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Ketika penyu bertelur, ketika penyu bertelur. Quand les tortues pondent des œufs. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois. Et puis vous pouvez me répéter. Kita, kita, nous. Bisa melihat, pouvons voir. Penyu hijau, tortue verte. Di pantai, sur la plage. Ketika, ketika, quand. Mereka, mereka, elle. Bertelur, bertelur, pond des œufs. Kita bisa melihat penyu hijau di pantai ketika mereka bertelur. Kita bisa melihat penyu hijau di pantai ketika mereka bertelur. On peut voir des tortues vertes sur la plage quand elles pondent leurs œufs. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu l'expression Kita bisa melihat penyu hijau di pantai ketika mereka bertelur. Kita bisa melihat penyu hijau di pantai ketika mereka bertelur. On peut voir des tortues vertes sur la plage quand elles pondent leurs œufs. Dans cet énoncé, il y a une conjonction ketika, ketika, quand. La conjonction ketika, ketika, quand peut être utilisé pour marquer la relation temporelle entre deux ou plusieurs activités qui se produisent ou sont menées simultanément dans cet énoncé. La conjonction ketika, ketika, quand marque la relation entre les deux parties de la phrase qui exprime des activités qui se produisent ou se déroulent simultanément. À savoir, saya melihat penyu hijau. Saya melihat penyu hijau. J'ai vu des tortues vertes. Et mereka, penyu, bertelur. Elles, les tortues, pondent des œufs. Chers amis, maintenant écoutons un autre exemple d'utilisation de la conjonction ketika, ketika, quand, pour marquer la relation temporelle entre deux ou plusieurs activités qui se produisent ou se réalisent simultanément. Saya melihat ikan pari ketika sedang berenang. Saya melihat ikan pari ketika sedang berenang. J'ai vu une raie quand je nage. Teman saya menelpon ketika saya sedang di Pulau Lihaga. Teman saya menelpon ketika saya sedang di Pulau Lihaga. Mon ami m'a appelé quand j'étais sur l'île de Lihaga. Chers amis, pour marquer la relation temporelle entre deux ou plusieurs activités qui se produisent ou sont réalisées simultanément, on peut utiliser la conjonction pada saat, au moment, ou saat. Saat, pendant que. Sewaktu, pendant que. Sewaktu, quand. Ou waktu, quand. Par exemple, Dev tiba di Manado pada saat Mona sedang mengajar. Dev tiba di Manado pada saat Mona sedang mengajar. Dev est arrivé à Manado pendant que Mona enseignait. Ou teman Dev menelpon sewaktu Dev sedang di Pulau Lihaga. Teman Dev menelpon sewaktu Dev sedang di Pulau Lihaga. L'ami de Dev a appelé pendant que Dev était à l'île de Lihaga. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kapan kita bisa melihat penyu hijau di Pulau Lihaga?
Kita bisa melihat penyu hijau di pantai ketika mereka bertelur.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'Indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson de Kalimantan Central intitulée Malauk Manjala. Vous êtes avec moi, Audrey. Sur ce guitare, la chanson Malauk Manjala a été composée par A.B. Sablonneau. Malauk Manjala signifie attraper du poisson. Cette chanson est également connue sous le titre Mambesei, qui signifie ramer. Comme son titre l'indique, Malauk Manjala décrit un pêcheur qui cherche du poisson. Le pêcheur a ramé jusqu'au milieu du lac et a pêché jusqu'à crépuscule. Il est revenu à la maison avec du poisson saluant dans un panier. Le résultat de la pêche suffit à manger aujourd'hui. Bon, chers auditeurs, voici Daniel Nurhan. Va chanter une chanson de Kalimantan Central intitulée Malauk Manjala. Bonne écoute! Thank you.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.